Accent d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous, les McDo parodies, on l'entend moquer, pourtant toujours aussi puissant. Et justement, ces fast-foods n'en profitent-ils pas pour pratiquer des conditions de travail abusives? Pour tirer l'affaire au clair, le Parlement européen va enquêter dans tous les restaurants McDonald's de l'Union européenne. Cette décision des eurodéputés fait suite à la réception de 3 pétitions rassemblant plus de 30 000 signatures. Elle fait suite aussi à l'audition de représentants syndicaux belges, français et britanniques, des syndicats qui dénoncent l'exploitation dans les McDo et des pratique à la limite de la légalité. Reportage de Johanna Hochstein à Bruxelles.
Ils sont une dizaine à venir s'exprimer devant la commission des pétitions au Parlement européen. Ils viennent de pays différents, mais constatent les mêmes abus. Tous dénoncent une précarisation du travail et des droits élémentaires qui ne sont plus respectés. Loïc Roldan est français. Il est salarié chez McDonald's depuis plus de 10 ans. Il a vu les conditions de travail des employés se dégrader avec l'augmentation du nombre de restaurants exploités par des franchisés qui représentent près de 3/4 des structures en France.
C'est presque le Far West. Du coup, conditions de travail assez compliquées dans le sens où un employeur peut avoir 3, 4, 5, voire 6 restaurants sous 6 entités juridiques différentes, donc moins de 50 salariés. Donc évidemment, pas de comité d'entreprise, pas d'intéressement, pas de syndicat, pas de représentant du personnel ou presque, avec très peu d'ordre de délégation. Et surtout, très important, pas moyen de pouvoir gérer les conditions de travail et la sécurité des salariés.
Pas facile pour lui de venir témoigner à cause des pressions exercées par McDonald's.
Il y a eu des foyers de contestation, mais à chaque fois qu'il y en a eu, disons que la répression a été assez fatale. Et généralement, les personnes qui se sont mobilisées ont soit démissionné ou ont été licenciées immédiatement. J'ai eu par le passé justement de multiples mises à pied justement de répression patronale. Aujourd'hui, malheureusement, on ne peut pas savoir si je risque des séquelles et avoir des conséquences de mon action d'aujourd'hui, mais je ne l'espère pas, ça c'est sûr.
Au Royaume-Uni, 90% des travailleurs de McDonald's sont engagés avec ce que l'on appelle des contrats zéro heure. Avec ce type de contrat, l'employeur ne donne en fait aucune indication d'horaire. Il ne doit pas mentionner non plus de durée minimum de travail. Pour Ian Hodson, président d'un syndicat britannique du secteur de l'alimentation, les conséquences sur les travailleurs sont très handicapantes.
On a l'exemple d'une femme enceinte qui a demandé à faire une évaluation des risques sur son lieu de travail. Elle disait qu'elle avait besoin de faire davantage de pauses compte tenu de son état. On le lui a refusé et on lui a rétorqué que si elle n'était pas capable de travailler, elle n'avait qu'à rentrer chez elle. Autre exemple, McDonald's demande à ses employés de venir au travail par texto. Quand ils arrivent, on dit à certains qu'on n'a pas besoin d'eux aujourd'hui, mais ils sont obligés de venir, parce que s'ils ne se présentent pas, alors ils n'auront tout simplement pas de travail les prochaines semaines.
Pour ces syndicalistes, McDonald's ne respecte pas les textes européens. Le droit de se syndiquer, le droit à la négociation collective, le droit à des conditions de travail justes et équitables, par exemple, autant d'éléments pourtant inscrits dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. C'est pour cela qu'ils ont décidé de se tourner vers le Parlement européen et notamment vers la commission des pétitions. Ils ont présenté leurs arguments et leurs pétitions qui ont recueilli plus de 30 000 signatures. Pour l'ancien syndicaliste français Édouard Martin, actuel eurodéputé socialiste, l'attitude de McDonald's est inadmissible, d'autant plus que la chaîne de restauration rapide est le deuxième employeur privé au niveau mondial.
Ça sert surtout à mettre la pression sur McDonald's et leur dire attention, on ne va pas vous laisser faire n'importe quoi et vous n'avez pas utilisé les travailleurs d'un pays contre les autres et vous n'avez pas participé sur le territoire européen à cette espèce de fuite en avant d'avoir toujours des travailleurs de plus en plus précaires avec de moins en moins de droits. Au moment où l'Europe souffre d'une telle crise d'identité et en tout cas où nous sommes mal perçus, le message fort que nous voulons envoyer, et pas uniquement pour faire plaisir mais parce que c'est la réalité, nous voulons vraiment mettre de l'ordre dans le droit du travail en Europe. Le laisser faire, ça a assez duré.
Le Parlement européen a demandé à McDonald's de s'expliquer. C'est donc une nouvelle épée de Damoclès sur la tête du leader mondial de la restauration rapide, qui est déjà soupçonné par la Commission européenne d'avoir largement échappé à l'impôt entre 2009 et 2013. Un manque à gagner pour les pays européens estimé à près d'un milliard d'euros. Une enquête a été ouverte fin 2015 sur des rescrits fiscaux conclus avec le gouvernement luxembourgeois. Enquête qui devrait aboutir début de l'année prochaine.
C'est la référence pour évaluer les systèmes éducatifs des pays de l'OCDE et elle est réalisée tous les 3 ans. L'enquête PISA est tombée pour l'année 2015 après des tests effectués auprès de 540 000 élèves de 15 ans dans 72 pays, des tests menés en sciences, en maths, en lecture, où l'on apprend que le niveau monte en Asie et stagne dans plusieurs pays d'Europe. Bonjour Daniel Vigneron.
Bonjour Catherine.
Alors, d'abord, Daniel, faut-il se focaliser sur ces classements qui suscitent toujours autant de débats et sont-ils fiables ?
La renommée de l'enquête PISA tient à la précision de sa méthodologie et aux moyens développés pour recueillir les informations. Réalisée depuis l'an 2000, elle permet en outre d'intéressantes comparaisons dans le temps. Cela dit, il faut relativiser les comparaisons entre systèmes éducatifs. Par exemple, le fait de cerner la capacité des élèves à utiliser les connaissances privilégie les pédagogies pragmatiques des pays anglo-saxons ou scandinaves au détriment des systèmes fondés sur la construction progressive d'un savoir comme dans les pays latins. Autre biais possible, la pratique du redoublement. Les pays où il est couramment pratiqué, c'est encore le cas en France, sont désavantagés car les élèves de 15 ans se retrouvent souvent dans des classes inférieures par rapport aux pays où le passage dans la classe supérieure est automatique.
Il faut donc relativiser les comparaisons.
Oui, d'autant plus qu'il y a des marges d'erreur. Il serait vain de tirer des conclusions sur un pays classé 9e avec 501 points en matière de compétences scientifiques et un autre pays classé 12e avec 495 points. En matière de classement, il faut se référer à de grandes catégories. Cela dit, l'évolution des scores d'un même pays sur plusieurs années traduit une réalité plus pertinente.
Dans cette QV 2015, que peut-on dire des pays de l'Union européenne et où se situe la France parmi eux ?
Sur les 30 premiers pays du classement en 2015, emmenés par Singapour et le Japon, il y a 16 pays de l'UE, mais il n'y en a que 2, l'Estonie et la Finlande, dans les 10 premiers, contre 7 pays asiatiques. Si l'on divise les 28 pays de l'Union en 3 tiers, on compte dans les mieux classés du premier tiers 2 grands pays d'Europe occidentale, le Royaume-Uni et l'Allemagne, et 4 pays situés plutôt au nord de l'Europe, Estonie, Finlande, Danemark, Irlande, Belgique. Dans le 3e tiers, le moins bien classé donc, se retrouvent des pays du sud comme l'Italie et la Grèce et plusieurs pays de l'Est européen. Au milieu, il y a la France, classée 12e de l'Union et 26e du classement mondial, ainsi que divers pays allant de l'Autriche au Portugal en passant par la Pologne, la Suède ou l'Espagne. Ces pays du milieu réalisent des scores proches de la moyenne OCDE.
La France a-t-elle vraiment bougé par rapport au classement précédent ?
Non, elle n'a guère bougé depuis 6 ans. Elle continue à être mieux classée en matière d'enseignement des mathématiques, où elle est 9e sur 28 pays de l'UE. Mais les maths sont dominées par l'Estonie et les Pays-Bas, tandis que le Royaume-Uni et l'Allemagne s'en sortent bien en matière de connaissances scientifiques. Quant à la compréhension de l'écrit, c'est en Finlande, en Irlande et en Allemagne qu'elle est la meilleure.
Daniel, quels sont les pays qui progressent ou qui régressent par rapport à 2009 ?
Parmi les pays dont les scores globaux progressent bien depuis 6 ans, on trouve l'Estonie et la Slovénie, mais aussi l'Espagne et le Danemark. Certains pays voient leur score stagner ou régresser légèrement, comme la France, l'Italie ou le Royaume-Uni. Mais il y a aussi plusieurs pays qui régressent très nettement, comme les Pays-Bas, l'Allemagne, la Belgique et surtout la Finlande. Ce qui donne à penser que ces derniers systèmes éducatifs ont vraiment perdu en efficacité ces dernières années. Cela est particulièrement vrai des connaissances en sciences en Allemagne et aux Pays-Bas.
Quid des inégalités qu'engendrent les systèmes éducatifs ?
L'inégalité est mesurée de 2 manières. D'une part, la proportion d'élèves peu performants qui atteint en France près de 15%, plus que la moyenne OCDE de 13%, et surtout beaucoup plus élevée que la plupart de nos voisins britanniques, allemands, néerlandais ou espagnols qui tournent autour de 10%. Mais le critère principal de mesure des inégalités est la variation de la performance due au niveau socio-économique. Un point très mauvais pour la France, où l'on mesure une variation de 20% entre les performances des élèves les plus forts et celles des élèves les plus faibles. L'Hexagone se place ainsi en 26e position sur 28 dans l'UE. Parmi les pays où les écarts entre bons et mauvais élèves sont les plus réduits, c'est-à-dire autour de 10%, on trouve le Royaume-Uni, l'Italie, le Danemark ou encore la Finlande. Quant à l'Allemagne, sa position est médiocre et elle se classe 20e.
Est-ce qu'on peut expliquer ces disparités en termes d'inégalités ?
L'enquête n'identifie pas de corrélation entre importance de la population issue de l'immigration, concentration de cette population dans certains établissements et niveau de performance des élèves. En revanche, les experts de PISA identifient les facteurs susceptibles de réduire les inégalités. Des effectifs de classe plus réduits, des ressources supplémentaires pour les établissements défavorisés, l'autonomie de ces établissements et un suivi spécifique des plus faibles.
Alors, en conclusion, Daniel, cette étude PISA est sévère pour le système éducatif français, pourtant réformée régulièrement.
Oui, elle est très sévère en termes d'inégalité, puisque le système français produit à la fois plus d'élèves de haut niveau que la moyenne OCDE, mais aussi beaucoup d'élèves peu performants. Mais comme le soulignait la ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem, les réformes prennent du temps à produire leurs effets. Ainsi, l'Allemagne, très mal classée en 2000, a initié d'importantes réformes éducatives au début du millénaire. Il aura fallu entre 6 et 9 ans pour qu'elles produisent leurs pleins effets.
Daniel Vigneron de myeurope.info. À bientôt, Daniel.
À bientôt, Catherine.
Depuis que le président turc a changé de politique envers les Kurdes, les ultranationalistes et le MHP montent en puissance dans le pays. Vu de l'étranger, c'est sans doute le moins connu des partis qui siègent au Parlement. Pourtant, le MHP, fondé il y a près d'un demi-siècle, a joué un rôle clé dans la vie politique turque. Et une fois de plus, ses choix pourraient changer la façon dont le pouvoir est exercé dans ce pays. Car son leader s'est dit prêt à soutenir le projet de régime présidentiel de Recep Tayyip Erdogan. Reportage à Istanbul.
C'était il y a un an et demi, en pleine campagne électorale pour les législatives. Ahmet Davutoğlu, alors Premier ministre turc, est sévèrement pris à partie par un rival d'opposition, Devlet Bahçeli, leader du MHP, Parti d'Action Nationaliste.
Davutoğlu n'est qu'un cheval de Troie au service du régime présidentiel voulu par Erdogan. Celui qui travaille pour le régime présidentiel d'Erdogan et non pour son propre parti, peut-il apporter quoi que ce soit au pays ?
Ironie du sort, ce même Devlet Bahçeli qui traitait de cheval de Troie le Premier ministre Davutoğlu fait face ces dernières semaines aux mêmes accusations et pour les mêmes raisons. Depuis le mois d'octobre, le chef du parti nationaliste est ouvertement favorable à un référendum sur le régime présidentiel réclamé depuis longtemps par Recep Tayyip Erdogan. Ce parti a beau être le plus petit parti sur les bancs de l'Assemblée, il suffit qu'une quinzaine de ses députés votent en faveur de cette réforme et que le parti au pouvoir, l'AKP, la soutienne de tout son poids pour déclencher un référendum. Cette volte-face n'étonne pas Kemal Can, chercheur et journaliste qui suit la formation nationaliste depuis 3 décennies.
En reprenant à son compte le régime présidentiel, Devlet Bahçeli affiche au grand jour sa coalition informelle avec l'AKP et Erdogan. Il en a déjà récolté les fruits. Il a été invité au palais présidentiel. Il montre que son parti est pris au sérieux, qu'il est important. À l'heure où il purge le MHP de son opposition interne, Bahçeli espère ainsi se renforcer. C'est d'abord une question d'image.
Il est vrai que Devlet Bahçeli, autrefois très critique du président Erdogan, s'en est nettement rapproché depuis l'été 2015, depuis la fin du processus de paix avec le PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan. Recep Tayyip Erdogan, de son côté, n'a aucun complexe à s'afficher aux côtés des nationalistes. La coalition informelle qui unit pour l'instant les deux partis pourrait donc se transformer à moyen terme en une coalition de gouvernement, estime le spécialiste Kemal Can.
Ce rapprochement est certes contesté par la base du MHP, mais pas suffisamment pour avoir des conséquences politiques, car il n'y a pas de conflit majeur entre la base des deux partis. Il est vrai que parfois, dans les coalitions de droite, le petit parti prend le risque d'être avalé par le plus gros. Mais dans d'autres contextes, comme le contexte actuel, ce n'est pas le cas. À mon avis, le MHP se protège en se rapprochant du pouvoir.
De fait, Recep Tayyip Erdogan jouit d'une certaine sympathie chez une partie non négligeable des électeurs du MHP. Ceux-là aiment son discours de plus en plus nationaliste, apprécient son charisme, soutiennent sa guerre totale contre le PKK. Et certains, comme Aden Çetin, commerçant d'Istanbul, vont même beaucoup plus loin.
Je vote MHP, mais je soutiens Tayyip Erdogan pour ses qualités de leader. C'est malheureusement ce qui manque à Devlet Bahçeli. Erdogan a fait des choses pour son pays dont je n'aurais jamais rêvé. Et oui, il s'est aussi trompé. Il a donné trop de liberté aux Kurdes. C'est pour ça que le PKK reste notre problème numéro un. mais il répare son erreur. Donc même si je ne sais pas trop ce qu'est un régime présidentiel, j'approuve ce projet pour le leadership d'Erdogan.
Voilà précisément le genre de discours qui fait bouillir de colère les détracteurs de Devlet Bahçeli au sein même du parti nationaliste. C'est le cas d'Arslan Bulut. À longueur d'éditoriaux, ce chroniqueur explique aux lecteurs du quotidien Yenicha, proche du MHP, que le chef du parti met en péril l'avenir de leur formation.
Il détruit le MHP. Si le régime présidentiel est instauré en Turquie, ce sera comme aux États-Unis. Il ne restera pas plus que deux partis hégémoniques, l'AKP et le CHP. Pourquoi un leader agirait-il pour détruire son propre parti? C'est ce que j'essaie de comprendre. Ce que je sais de manière sûre, c'est qu'il a pris cette décision sans consulter les cadres du parti. Mon hypothèse est donc que Devlet Bahçeli agit sur commande, qu'il travaille pour l'État. Mais pour quel groupe au sein de l'État, ça, je ne suis pas en mesure de le dire.
Le journaliste accuse donc le leader nationaliste de faire le jeu du pouvoir en parfaite connaissance de cause. Il l'affirme sans avancer de preuves, ce que certains assimileraient à une théorie du complot. Arslan Bulut a au moins raison sur un point. Parmi les 40 députés MHP, le malaise est palpable. Officiellement, la ligne de défense est la suivante. Tayyip Erdogan est en train d'instaurer de fait un régime présidentiel. Il viole donc la Constitution, autant trancher une fois pour toutes et demander l'avis des électeurs. Le député Erkan Akçay, chef du groupe MHP, rejette pourtant les accusations de coalition informelle avec le parti au pouvoir. Il s'en sort par une pirouette.
Si l'AKP va dans le sens de nos politiques, nous n'allons pas nous opposer pour le principe de nous opposer. Ce ne serait pas cohérent. Nous soutenons le gouvernement quand il le faut, tout en restant dans l'opposition, mais pas dans une opposition aveugle et sourde. Nous restons attachés à nos principes et notre approche est constructive. Elle vise à trouver des solutions aux problèmes de la Turquie.
En cas de victoire du oui à un référendum sur le régime présidentiel, il se murmure déjà que Devlet Bahçeli, chef des nationalistes, pourrait se voir proposer un poste de vice-président aux côtés de Recep Tayyip Erdogan.
Voilà, on peut en parler en rap hein, aussi, mais un petit dessin vaut mieux qu'un grand discours. Et c'est à partir de cet aphorisme que des chercheurs portugais ont eu l'idée de mettre en image ce que vont provoquer les changements climatiques. À travers une BD, ils veulent ainsi sensibiliser l'opinion, Marilyn Darcy.
Des planches soignées, un dessin réaliste, un scénario étoffé, la bande dessinée ressemble à s'y tromper à une BD ordinaire, à ceci près que les héros y sont des chercheurs ou bien des gens confrontés aux dégâts du réchauffement climatique. Il serait facile de tomber dans le piège du didactique, des planches illustrées trop schématisées et truffées de croquis compliqués. Il n'en est rien. Et la BD, tout droit sortie de l'imaginaire du biologiste Bruno Pinto, est dynamique et vivante. Ce chercheur fait partie du projet Climadapt local, destiné, comme son nom l'indique, à faire connaître localement l'impact du changement climatique. Il s'adresse directement aux municipalités, 26, du nord au sud du Portugal, qui y sont associées. Une démarche régionale alors que, comme le constate Bruno Pinto, pour beaucoup, le réchauffement, c'est la glace qui fond au pôle Nord, mais rarement les incendies qui ravagent le pays avec une régularité machiavélique. Dans la BD, le biologiste envoie son alter ego, une jeune journaliste, Sofia, enquêter sur le terrain, refaire ce que Bruno a fait dans la réalité auprès des élus, auprès des acteurs locaux, mais aussi d'un climatologue et d'une sociologue réputée au Portugal. Entre érosion côtière dans un pays doté de 800 km de côte, incendies géants, canicules meurtrières et typhons dévastateurs, on prend conscience des changements qui s'opèrent. Alors que le projet Climadapt local touche à sa fin, une seule des 26 municipalités a présenté sa stratégie face au changement climatique. Il y a une vraie urgence à diffuser la BD. Elle est disponible gratuitement en ligne.
Voilà, et si vous voulez voir ce que donne cette BD, rendez-vous sur Facebook pour le lien. Accent d'Europe, c'est déjà fini. À la réalisation, comme toujours, Françoise Grelot. Vous pouvez évidemment nous retrouver sur RFI.fr et je vous l'ai dit sur notre page Facebook. Restez à l'écoute dans quelques instants les infos. Autour de la question.